Salut à tous, bienvenue dans ce live numéro 221 sur Amix Réflexion Live. Ça fait plaisir de se retrouver bientôt, le show numéro 222. Est-ce qu'on fera un goûter chez Blaise? Je ne sais pas, où est-ce qu'on attendra le show numéro 300? On va voir, peut-être que d'ici la semaine prochaine, on aura plein de nouvelles idées. En tout cas, super content de se retrouver, on est assidus en ce moment, toutes les semaines, un nouveau live. On enchaîne 2 semaines avec des formats un petit peu spéciaux, avec plusieurs invités, on va parler d'actualité. Ce sont des invités qu'on a déjà eus, donc c'est plutôt cool de les avoir en début de saison comme ça, surtout qu'il y a eu pas mal de changements, on va avoir pas mal de sujets à balayer avec eux, on va bien s'amuser. Et on va parler aussi peut-être de l'actualité de Blaise Abadi qui va peut-être nous dévoiler ce qu'on va retrouver sur Amix Réflexion prochainement. Ou alors tu gardes la surprise Blaise, je sais pas trop, je sais même pas trop comment l'amener ça.
Je vais dévoiler, mais ça va être notre invité qui va décider de si je dévoile ou pas, tu vois. C'est lui qui va lever le voile sur le suspense ou pas. Je pense que tout le monde est en train d'attendre ça et du coup, est-ce que ça va Quentin, t'as la forme?
Nickel.
Est-ce qu'on dévoile ce qu'on va faire sur les 3 prochains mois sur la chaîne MX Réflexion ou pas?
Moi, je pense que vous devrez. Moi, je pense. C'est à faire parce que je pense que les gens, ils sont chauds. Faut
chauffer. Donc, mais attends, courant de semaine ou de la semaine prochaine, la livraison d'une Stark. Et du coup, pendant 3 mois, on va tester la Stark. On va essayer de la mettre dans plusieurs endroits. On va la mettre en enduro extrême, on va la mettre en enduro, on va la mettre en cross, on va essayer de la mettre en super cross, on va la mettre dans le sable. On va la mettre partout pendant 3 mois. Et on va faire des vidéos à chaque fois pour voir un petit peu les avantages et les inconvénients de cette machine, pour voir si c'est destiné à faire ça. Et on terminera par une course. Donc ça fait 5 ans que je ne me suis pas inscrit à une course, à part au Kenny Festival où il y a 4 tours à chaque fois. Et du coup, je me suis réinscrit sur une course du championnat, ancien championnat Midi-Pyrénées. Donc on fera ça. Donc ça va être cool. Ça va être cool avec une moto électrique de faire une course et de voir comment ça marche, cette histoire.
Mais là, je vois déjà dans les commentaires, ça va déjà douter, tu vois. Il y en a qui doivent douter, tu sais, des capacités de la machine et tout. Moi, je doute plutôt de tes capacités à toi en supercross, de mes capacités à moi en enduro extrême. Mais bon, je pense au final que la machine, elle va aller très bien. Mais c'est les bonhommes. Et donc, il va falloir après se préparer.
Vous allez voir, ça va créer la surprise. Ça, je vous le dis, je vous fais un teaser, ça va créer la surprise en Midi-Pyrénées. Vous allez voir.
Bon, trêve de plaisanterie. Il y a MX Réflexion, mais il y a la vraie vie aussi. Quentin, comment ça va dans cette vraie vie du championnat du monde MX2?
Écoute, ça va nickel. Début du championnat, c'est passé correctement à peu près, en tout cas à l'Argentine, un peu plus compliqué l'Espagne, mais ça va. C'est un monde différent de l'Europe, mais ça va.
Changement de team, toi, comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'es bien acclimaté? Ça faisait un moment que tu étais chez Bud. Comment tu l'as vécu, toi?
Franchement, ça s'est super bien passé parce que j'ai Steph qui m'a vachement accompagné aussi dans ce changement de team, qui m'a poussé aussi pour que je vienne ici. Donc franchement, ça s'est super bien passé, même les premiers entraînements depuis que je suis arrivé au team et tout, je me suis quand même assez vite acclimaté. Je m'entends super bien avec tout le monde dans le team, que ce soit Marc, les mécanos ou même Nathalie, la patronne du team. Donc non, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Les entraînements sont différents. C'est pas facile. C'est pas facile. Et non, franchement, le changement de team, ça s'est franchement super bien passé. Même le changement de pays, etc. J'ai pas grand chose à redire à ce niveau-là.
Tu peux dire pour ceux qui connaissent pas, qui n'ont pas suivi, où tu es basé, comment ça se passe, tes entraînements. C'est Marc, quand tu parles de Marc, c'est Marc de Rover. Marc de Rover, on l'a connu pour les anciens en tant que pilote. Comment il est en tant que... Comment tu le qualifierais? Team manager, entraîneur?
Marc, je le qualifierais comme juste entraîneur. Il s'occupe vraiment juste de l'entraînement et tout. Forcément, à un certain moment, il faut qu'il manage les choses. À partir du moment où on part à l'entraînement, c'est un peu lui qui décide un peu tout, où on va, etc. Donc, c'est son rôle. Donc, il reste dans son rôle d'entraîneur. Et il rentre pas trop dans tout ce qui est management au team. C'est vraiment juste un entraîneur. Après, pour la question précédente, c'est du coup j'ai déménagé en Hollande. On est juste à côté de Rotterdam. Donc j'ai passé de Osgore à ici. Et les entraînements, ça reste. Comme on était chez Bud, 3-4 fois par semaine avec du coup l'entraînement physique, etc. Forcément, on a changé un peu le. Ouais, on a changé, on a augmenté un peu l'intensité et puis juste la charge d'entraînement. Et voilà, on a changé aussi sur la nutrition. Je suis très prêt à tout ce qui est nutrition, sang, tout ça. C'est super important pour eux. Le team, ils aiment bien. C'est pas qu'ils aiment bien, c'est qu'ils veulent que leur pilote soit vraiment au top à chaque fois. Donc, du coup, ils mettent tout en place pour que tout soit nickel à chaque fois, tout soit parfait.
C'était pas un secret que tu allais atterrir chez FH, hein, Kawasaki. Par contre, ça a mis du temps, je trouve que l'annonce, elle a mis du temps à sortir. C'était dû à quoi? C'était dû à des contrats? C'était dû au fait que ce soit pas sûr à 100%? Est-ce que tu peux nous expliquer ça?
Alors déjà, c'était pas sûr à 100%. Les discussions ont commencé à aller un peu plus. On a été un peu plus dans le vif du sujet avec le team bien après les Nations. Je pense une ou deux bonnes semaines après les Nations déjà. Donc c'est sûr qu'il y a eu des discussions avant, etc. Mais il n'y avait rien de fait. Et puis après l'annonce par rapport à ça, c'est des histoires de contrat, des choses que moi je
Et tu
comprends
pouvais rouler quand
pas.
même? T'avais de quoi rouler ou t'étais à pied pendant un
Non,
certain
non,
temps?
non, du tout. Non, non, du tout. On a commencé à rouler mi-novembre. On a même été dans le sud de la France 2 semaines pendant le mois de décembre. Donc, non, c'était juste une histoire de contrat, en fait, qu'ils ne pouvaient pas vraiment exposer sur les réseaux sociaux que du coup, j'avais signé avec eux. Donc, on a pu commencer à exposer qu'à partir du mois de janvier. Normalement, ça devait se faire le 1er janvier, mais après ça, c'est des choses un peu en interne. Par rapport à eux, leur presse à eux qu'ils ont ici en Hollande, qu'ils ont dû attendre en fait pour faire sortir la nouvelle.
Au niveau de l'hiver, ça s'est passé comment toi? Tu nous as dit que tu étais arrivé en novembre, vous avez roulé un petit peu, tu l'as. Bon, si on compare l'hiver que tu as eu chez Bud à Hossegor avec l'entraînement que tu avais avant, et l'hiver que tu as fait là, en préparation avant d'Europe, là tu es en préparation mondiale, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé au niveau physique, au niveau technique, au niveau moto ou pas?
Ouais, niveau physique en soi, pas forcément. Pas forcément. De toute façon, comme vous voyez, de toute façon, comme on voit un peu sur tout le monde sur les réseaux, les pilotes pendant la saison hivernale, ils ont tendance à faire beaucoup de vélo, etc. Des longues sorties. Donc ça, en soi, c'est resté un peu la même chose par rapport à l'Europe. C'est surtout le roulage qui était différent pour moi parce que c'était pas tout le temps. En fait, j'avais pas besoin de forcer en fait pendant l'hiver. C'est ce qu'ils disent un peu, tu dois en fait construire un peu ton pilotage, reconstruire un peu ton pilotage pendant l'hiver, parce qu'on a eu un bon break quand même tout le mois d'octobre. Donc reconstruire son pilotage et après on augmente l'intensité au fur et à mesure. Mais ouais, ça a été. C'est une préparation différente de l'Europe, parce qu'il ne faut pas non plus trop forcer. Faut rester en forme pour le début de saison. Et dans ces moments-là, enfin moi personnellement en tout cas dans ces moments-là, on voit que la récup c'est super important. Ça fait aussi partie de la performance. Enfin, c'est pas qu'avant je prenais pas soin de la récup ou quoi, mais c'est que on avait des courses qui étaient vachement petites. Enfin, c'était fait tout le samedi, une manche le dimanche. Donc on pouvait tout donner en fait en une seule fois. Et bah là, c'est vachement plus étalé et il faut vachement prendre soin de soi, etc., pour être tout le temps en forme, en fait.
Par rapport à ton programme de l'année dernière, où tu étais dans le sud-ouest, tu avais quand même la possibilité de pas mal t'entraîner quand tu étais chez Bud avec à Majesque par exemple et pas mal de circuits qu'il y a autour. Dans le sud-ouest, ça commence à être pas mal pour pouvoir rouler en semaine. Là, est-ce que tu as actuellement comme programme, est-ce que c'est mieux pour toi? Est-ce que tu peux expliquer la différence?
Bah, en soi, on trouve toujours des solutions pour rouler parce qu'on n'est pas trop loin de la France ou quoi. Donc, s'il y a besoin de partir 2 jours parce que la météo elle est mauvaise ici, on part en France, mais sinon on part rouler en Allemagne. Donc, non, en soi, on trouve toujours des solutions. Et puis, vu que Marc il connaît quand même beaucoup de monde ici, il arrive à faire ouvrir des pistes qui ouvrent pas facilement ou pas forcément au grand public. Donc, non, ça va, on arrive à toujours un peu se débrouiller pour trouver des solutions et rouler ça. Ça, on n'a pas de problème spécial ou quoi que ce soit.
Si on parle des premières courses que tu as faites, est-ce que ces premières courses, c'est pas évident, tu es dans un nouveau championnat. Est-ce que pour toi, c'est conforme à ce à quoi tu t'attendais? Ou est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu es déçu? Tu en penses quoi, toi, de ce début de saison?
Alors, c'est pas comme je m'attendais.
T'attendais à quoi,
Parce
toi?
que
Quelque chose de
là,
plus facile,
non,
plus.
ouais, plus facile. Enfin, je m'attendais à ce que ce soit dur, mais En tout cas, l'Argentine, ça allait. C'était un peu au niveau de mes attentes. L'Espagne, ça a été plus dur que ce que je pensais. Parce que, en fait, quand par exemple, j'ai pris vraiment une bonne chute en première manche et je pensais que ça allait aller pour la deuxième et tout. Tu vois, par exemple, à l'Europe, si tu mets une grosse boîte le samedi, tu as quand même le samedi soir et puis le dimanche matin pour bien récupérer. Que là, t'as 2 heures, donc c'est pas facile de se remettre de quelque chose comme ça. Et puis là, quand tu pars devant aussi, c'est le rythme, c'est super élevé. Tu pars devant, les mecs, ils sont vraiment à bloc, à bloc, à bloc. Franchement, ça se décrit même pas. C'est un truc de fou. Les premiers tours, c'est vraiment intense et ça va vraiment vite. Et ça. J'ai pas fait des top départs en Argentine à part un peu la deuxième manche, mais là en Espagne j'ai été un peu, ça m'a forcément, ça m'a surpris de tout ça quoi. C'est pas du tout comme à l'Europe, donc même dans les pistes plus compliquées.
C'est quoi? C'est
Ouais.
l'intensité du premier tour ou c'est le fait que tous les pilotes sont homogènes et quand tu as quelqu'un derrière, c'est forcément quelqu'un qui roule aussi vite que toi ou...
Non, non, c'est l'intensité qui est mise simplement parce que quand tu pars. Y a une grosse différence de quand tu pars dans les 5, 8 à quand tu pars 15, tu vois. Ça fait un, ça, c'est vraiment plusieurs wagons qui sont collés. Mais franchement, c'est devant. Je crois que les deux manches, je suis parti. Les 3 manches, pardon, je suis parti devant avec avec De Wolf et tout, les premiers tours. Mais franchement, c'est pas facile. Et ça, c'est quelque chose qu'on se rend pas forcément compte quand on fait l'Europe et quand on fait juste une seule course en mondial, en fait. Parce qu'on se dit, ouais, le niveau, il est juste plus élevé, mais de toute façon, je suis là que pour une fois, donc c'est pas trop grave. Quand tu fais vraiment le championnat, c'est vraiment pas pareil. Tu te rends compte que là, déjà de 1, tu as encore énormément de travail. Et puis au final, même si tu as la vitesse pour rester avec eux, tu sais, tu as toujours tendance un peu à faire des petites erreurs et tout ça, quoi. C'est vraiment. Non, franchement, c'est dur, mais c'est top de se retrouver dans des endroits comme ça. Tu te retrouves au milieu des meilleurs pilotes du monde et voilà, je pense que c'est bien, ça fait partie de la phase de progression.
Comment tu travailles du coup cette intensité toi à l'entraînement? Tu en as parlé à Marc de Rever, le fait que tu pensais que toi, enfin, que tu trouvais que c'était beaucoup plus intense.
Ouais, bah lui, il était mort de rire. Il était mort de rire quand je me suis retrouvé là, ça l'a fait rire. Il a vu que je galérais un peu à être là au début, quoi. Après, on bosse comme il faut bosser. Quand on a besoin de faire des sprints, on fait des sprints. Mais en soi, ils m'ont dit de toute façon, dans tous les cas, ça c'est quelque chose que tu peux pas forcément travailler en amont. C'est vraiment. Il faut juste choper en fait le truc et puis même d'autres, j'en avais discuté un petit peu avec Steven aussi, Frossard, il m'a dit que c'est des choses que, c'est en fait ça s'attrape juste à l'habitude et à force d'être là en fait.
Et le fait de rouler peut-être à l'entraînement avec des personnes qui roulent en mondial, est-ce que tu penses que ça peut y faire?
Je pense pas parce que tu vas sur un entraînement, des fois les mecs en mondial ils se font déposer par des mecs qui roulent ici, tu vois. En Belgique, des fois c'est super improbable. Des fois, un mec que t'as jamais entendu parler, il va te dépasser comme ça, puis il va dépasser d'autres mecs. Et puis un coup, tu vas voir Prado aller super fort, rouler super vite là, puis après, enfin. C'est super. En fait, tu peux pas comparer l'entraînement aux courses. Pour moi, c'est pas comparable.
D'accord.
S'entraîner avec tout le monde, forcément, c'est bien parce que du coup, tu t'habitues à être avec ces personnes-là. Mais en tout cas, de mon point de vue, c'est pas parce que tu vas mettre 2, 3, 4 secondes avec ce mec-là à l'entraînement qu'il va arriver en GP. Il va pouvoir t'en mettre 3 sur un chrono, tu vois.
Moi, j'avais plus en tête, tu sais, ce qui se passe en gros à la Baker Factory et même avec d'autres. Hein. Le fait qu'on ait quatre pilotes qui se retrouvent, trois, quatre, cinq pilotes qui se retrouvent tout le temps à l'entraînement, qui bossent ensemble, qui font les manches ensemble et ces pilotes-là qui sont à peu près au même niveau. Tu vois, toi à l'entraînement, tu roules seul ou tu es avec d'autres personnes?
Non, 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 du tout. Je m'entraîne avec deux autres pilotes que Marc s'occupe aussi. Mais c'est pas trop comme à la Baker's Factory, tu vois. Par exemple, si à la limite on pourrait peut-être comparer un peu si bah, tous les pilotes de Grand Prix feraient le même programme à la journée, tu vois, parce qu'ils sont tous là à se dire ouais, bah, aujourd'hui on sait que tout le monde doit forcer, tu vois. Donc pour moi c'est pas forcément comparable. Les deux autres pilotes avec qui je m'entraîne. Bah, ils sont un peu moins vite, donc forcément, bah, c'est pas comme si je m'entraînais avec les pilotes du top 5 en mondial. Ça, il y a toujours un, comment ça s'appelle, il y a toujours une base, mais c'est pas comme si que je m'entraînais tous les jours avec De Wolf ou Langenfelder et tout ça, quoi.
Ça te paraît insurmontable d'arriver au niveau de De Wolf ou bon, on prend l'exemple de De Wolf parce que tu en as parlé et qu'il est en tête du mondial actuellement, mais quand tu penses que voilà, sur un tour chrono ou des choses comme ça, tu arriverais à aller à cette vitesse-là?
C'est insurmontable, je dirais pas ça, parce que rien n'est impossible si on bosse et si on le veut vraiment. Donc c'est possible, mais enfin, pour ma part en tout cas, j'ai énormément de travail. Je sais que j'ai jamais été un top des chronos, etc. Mais ça demande du travail, de l'expérience, et peut-être, hein, mais pour l'instant en tout cas, j'en suis pas encore à là. Faut que je continue à bosser pour me rapprocher de cette vitesse.
Ça te fait pas paniquer en tout
Donc
cas. Pour l'instant, t'es pas en
non,
mode
ben
panique. Il faut que je donne tout pour arriver à ce niveau-là, quoi. Tu te laisses quand même un petit
non,
peu de temps pour apprendre.
non, mais après ça sert à rien, je pense, de paniquer, de s'exciter. J'ai pas, pour l'instant, ben, cette année, on va dire que c'est pas que j'ai rien à prouver, mais je suis là pour apprendre. Forcément, tu sais, des fois, t'es là. Enfin. Après deux week-ends de course comme ça, c'est un peu frustrant de partir devant, de tomber, ou bien de faire une manche avec un mal de tête et que ça va pas forcément. Bah, c'est frustrant de rentrer à la maison quand tu vois la fiche de résultat, mais il y a encore plus de 50 manches, en comptant les manches qualif et tout, donc ça sert à rien, je pense, de s'exciter et tout. Forcément, ben, j'ai envie. Des fois, ça m'énerve. Je me dis, j'ai envie d'être à ce niveau-là, mais faut bosser. Faut juste garder cette ligne de travail et continuer à évoluer, parce que dans tout ça, il y a quand même du positif. Tu as les départs et tout, tu te retrouves devant. C'est toujours bien à apprendre. En Argentine, la vitesse, elle a pris du temps à venir, mais elle est venue à la fin de la première et pendant la deuxième manche. Donc, non, c'est faut juste en fait bosser, 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 bosser. De toute façon, il y a rien de magique, et bah, bosser et puis prendre de l'expérience avec eux, simplement.
Tu te situes où toi quand tu es en forme à l'heure actuelle? Tu te situes en top 10, top 8, top 15, ça serait où?
Bah, pour l'instant, le mieux que je m'étais situé, c'était bah, j'ai fait 9 en première manche en Argentine. La deuxième manche, j'étais 8. Et le 6 et le 7, ils étaient devant, j'étais plus vite, j'étais en train de remonter, mais je suis tombé. Donc pour l'instant, je me situe seulement dans le top 10. C'est pas ce que je veux, mais pour l'instant, ça sert à rien de m'imaginer ou bien de m'inventer une vie à me dire que ouais, j'ai la vitesse du top 5. Pour l'instant, je me situe dans le top 10. Va falloir confirmer et après continuer à évoluer.
Là, j'affiche le classement. Je sais pas si vous le voyez bien, mais actuellement, du coup, après deux Grands Prix, tu es 15e du championnat. Si on t'avait dit ça cet hiver, tu aurais signé de suite ou tu aurais dit, ouais, non, là, il va falloir se mettre au boulot
Non,
pour rentrer dans le top 10.
j'aurais dit là, va falloir bosser. Non, non,
D'accord.
non, 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 j'aurais dit là, va falloir bosser. C'est rageant quand je vois des trucs comme ça. C'est énervant, forcément, mais pour l'instant, les deux courses, elles sont passées. Je peux pas revenir dessus. La seule chose que je peux faire, c'est bosser pour simplement, je peux que évoluer, donc c'est tout. Je vais pas forcément me prendre la tête ou quoi, juste rester dans mon truc et juste avancer, tout donner de toute façon jusqu'au bout.
Ce que j'aime bien dans ton raisonnement, c'est le fait que tu mets pas la faute sur quelque chose en fait. Tu vois, que tu mets pas la faute sur la moto, tu mets pas la faute sur une blessure, tu mets pas la faute sur quelque chose. Et ça, j'aime bien, j'apprécie, parce que 50% des pilotes auraient reporté la faute sur des réglages suspension, des réglages moteur. Toi, justement, si on embraye sur ça, sur la partie moto, tu en penses quoi de ta moto à l'heure actuelle?
Non, franchement, moi, je suis super content de ma moto et j'ai encore prouvé que le team, ils avaient, qu'ils avaient des ressources, qu'ils avaient des personnes qui bossaient énormément sur nos motos. Parce que sur 6 départs, j'en ai fait 4 qui étaient bien. Donc, je pense que ma moto, elle a rien à prouver à personne. Parce que l'année dernière, elle a fait des all shots. Cette année, elle a fait des départs dans le top 5-8 et surtout en plus en partant de en partant quand même d'assez extérieur. Donc non, moi je suis super content de ma moto. J'évolue avec ma moto et voilà, si demain j'ai si les premières courses, j'ai fait des courses comme ça, je vais pas commencer à mettre la faute sur ma moto ou quoi que ce soit. Enfin, c'est un raisonnement personnel. Pour moi, si même si la moto, on va dire qu'il y a un problème ou quoi, tu peux toujours aller chercher mieux et ça sert à rien de commencer à rejeter la faute sur la moto ou une blessure. Ce week-end, je suis tombé, je me suis fait mal à la tête, voilà, c'est mon problème d'être tombé et c'est à moi maintenant de gérer. Je suis tombé, je me suis fait mal, j'ai voulu rouler quand même, c'est pas grave. Tu vois, c'est comme ça, c'est la course. Quand les autres ils tombent, ils se font mal et ils vont pas crier, dire ouais, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Je peux rien y faire.
Je relève un peu les questions. On a Philippe qui demande dans quel secteur as-tu le plus de marge de progression d'après toi? Est-ce que c'est plutôt mental, technique ou physique?
Je pense qu'aujourd'hui ça reste mental. Techniquement, je pense pas que j'ai énormément de choses encore à vraiment énormément de marge. Physiquement, je pense qu'on a assez bossé. Je pense que c'est juste mental, simplement s'habituer à être là, à prendre de plus en plus confiance.
Ouais, s'habituer à la vitesse en fait, à
Ouais.
l'intensité, s'habituer à tout ça.
Exactement. Mais de toute façon, en mondial, tout se joue au mental. C'est un jeu en fait. Tu regardes tout le monde, ils essayent un peu de jouer avec toi. Ça se joue que au mental. Les premiers tours, ça va à bloc. Et puis le rythme, il peut changer pendant la manche. Enfin, tout le monde pousse à la mort pendant la manche. Et c'est celui qui aura le plus de mental et qui va aller au bout. Parce que tout le monde, je pense, est assez prêt physiquement. Mais c'est celui qui va le moins lâcher qui va gagner, qui va être le meilleur.
T'as quelque chose pour le travailler, ça, ce mental? Quelqu'un qui t'aide ou pas?
Oui. Je bosse avec Candice Magnétisme, ça fait depuis 2020. Et je suis content du travail qu'on a fait. Et puis on continue à évoluer. Donc voilà, petite pub.
On parlait des motos. On a une question ultra technique sur la moto. On a Lilian qui nous demande pourquoi des motos noires?
Alors,
Fait que
j'aimerais voir la question.
Marc de Rover a l'air d'aimer le noir, non? Parce que c'est vrai que même l'annonce, quand tu étais chez lui, j'ai vu, il y a un fond noir, il y a pas mal de
Ouais.
noir un peu partout. J'ai l'impression qu'il aime bien ça.
Simplement parce que le team n'a pas d'aide d'une marque en particulière. Donc forcément quand t'as pas d'aide, t'as pas envie de mettre en avant quelque chose. Donc moto noire, simple et efficace.
Efficace, basique. Ça fait deux fois qu'on a eu la question, donc je la relève quand même, à force. Les US, c'est pas pour maintenant, du coup. Est-ce que ça a été évoqué quand tu es entré dans le team ou pas?
Non, pas du tout. Les US, je pense que c'est encore à attendre parce que j'ai besoin encore, je pense, de prendre énormément d'expérience en tant que pilote avant de switcher complètement de discipline comme ça et prouver un peu plus, prouver des choses en Europe avant d'y aller aux US.
Et du coup, toi, tu pourras faire quand même le SX en Europe, enfin en France, ou pas, en fin de saison?
Ça, c'est un cadeau.
Ah, si,
Si je roule bien, si je
parfait.
roule bien, quand tu roules
Cadeau.
bien, tu as le droit à tout. Quand tu roules bien, tu as le droit à tout. Donc si je mets du gaz et que je veux faire du SX, je pourrais faire du SX. Mais par contre, autrement, je me mangerai les doigts.
Toi, ça t'intéresserait d'aller au Six de Paris et tout
Toujours,
Ouais.
toujours, toujours. Le Supercross de Paris, c'est Supercross de Paris, c'est incroyable d'être là-bas, de rouler dans l'arène et tout. Et non, franchement, c'est top. Si j'ai l'occasion de le refaire, je pense que je le referai. Ça dépendra après, parce que là, la saison, quand même, c'est une saison quand même un peu plus intense. Mais si je peux bien me préparer et tout, franchement, je pense que je le referai avec grand plaisir. C'est monstrueux, le Supercross de Paris.
On a dans les commentaires, on a Sarah qui dit salut Quentin. Donc Sarah, si tu es bousculé en DM par Quentin, n'hésite pas à nous le dire. Hein, s'il y a du harcèlement ou quoi,
Ça
on lui tapera
mais
sur les
non,
doigts.
c'est mon amie italienne. C'est comme je la considère comme ma soeur. Je fais de gros bisous.
Ok. Et d'ailleurs, Jimmy relève un petit peu. Toi qui chambres tous tes potes sur leurs copines, toi c'est comment à ce niveau-là?
Moi, je chante personne. Moi,
Non, mais bon, c'est vrai
j'ai
qu'à
pas
chaque
de
fois
copine.
qu'on a des invités, tu participes aux questions sur Instagram et t'as souvent des petites anecdotes qui sont sympas. Ouais.
Non, non, j'aime bien embêter, mais non, moi je suis tranquille. Surtout depuis que je suis arrivé ici, j'ai pris un énorme stop par le team. Donc, non, c'est vraiment, ils veulent que je sois à bloc dans le travail. Donc, non, j'ai pas de copine, focus à l'amour.
Ouais, dans tes semaines en Hollande. J'imagine que c'est pas les mêmes semaines qu'à Hossegor. On a eu la question aussi tout à l'heure, je ne l'ai pas relevé, mais tu le vis comment, toi, le fait d'être en Hollande? Déjà, est-ce que c'est différent? Et si c'est différent, est-ce que tu sais vraiment le travail à fond et pas de sortie vraiment à l'ancienne, quoi?
Non, non, c'est à l'ancienne. Après, aussi, t'as pas envie, hein. Tu viens de passer une journée, t'as été à Gravenbroich, t'as fait je sais pas combien d'heures de route. Tu rentres et tout, t'as passé une journée dans du sable noir, il y avait de la pluie, il faisait froid, t'as des grosses ornières, t'es tombé 40 fois. T'as pas envie de sortir,
Je me fais
franchement.
rêver.
T'as
On a tous
pas...
envie d'être à ta place là, alors qu'il est, tu
t'as pas envie. Non, franchement, t'as pas envie. Des fois, ben, forcément, quand tu dois, en fait, un peu, tu vois, des fois, ils nous disent, quand on a des week-ends un peu plus tranquilles, Marc, il nous dit, ben voilà, ce week-end un peu détente, va te balader un peu dimanche ou quoi, quand on a un jour de repos, mais franchement, t'as pas envie. Et puis, ici, des fois, avec la météo, t'as envie. Le seul truc que t'as envie, c'est de rester à la maison, te reposer, et puis, t'as pas envie d'être fatigué aux entraînements, parce que franchement les entraînements sont difficiles et c'est la dernière chose qui t'ait envie. Franchement, tu as envie d'être toujours en forme aux entraînements tout le temps, parce que déjà de 1 tu prends un tir et de 2 tu passes une mauvaise journée. Donc vaut mieux toujours être en forme, et comme ça au moins déjà t'as rien à te reprocher aussi. Et
Et
puis si tu as
en
envie
étant.
d'être bon.
Vas-y, vas-y, pardon, je te laisse finir, excuse-moi.
Non, non, vas-y, vas-y.
Je disais, en étant en Belgique, du coup, tu t'es rapproché aussi de Marc-Antoine Rossi, là, notre invité qui a pas tardé à arriver. Qu'est-ce que t'en penses? Tant qu'il n'est pas là, vas-y, tu peux balancer dans son dos si tu veux.
Non,
Il écoute pas en plus.
Marco, il est comment s'appelle? Il est en Italie, lui. D'habitude, là, il est en Belgique pendant une semaine. Mais
D'accord.
qu'est-ce que je pense de Marco? C'est-à-dire sur
Ouais, humainement, en tant qu'adversaire, voilà, quelles sont tes
humainement.
relations avec lui déjà?
Bah, avec Marc-Antoine, on se connaît depuis 2020. Parce qu'il roulait chez Bud quand il était en 85, on s'est rencontrés là et puis on était amis. On s'est rapprochés d'un seul coup l'année dernière au GP du Portugal. Et puis.
Attends, laisse-moi deviner, est-ce qu'il a une sœur?
Oui.
Non, c'est pas comme ça que vous êtes rapprochés, non, c'est juste que je
Non,
demande ça, hein, c'est juste
non,
pour
t'es fou.
clarifier les choses.
T'es fou. Non, 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 jamais d'avis. Marc-Antoine, c'est mon ami, c'est mon meilleur ami. Je peux pas lui faire un truc pareil, t'es fou. Et non, non, c'est mon meilleur ami. On est tout le temps au téléphone, on discute tout le temps sur les Grands Prix. C'est le seul pilote avec qui je vais voir si il est. La dernière fois, il est tombé. Tu vois, on va toujours se voir. Je suis tombé en première manche. Il est venu au camion me voir. Tu vois, après que j'étais tombé, on a de très bonnes relations. Tu vois, ses parents, c'est des amis super proches. Je connais même sa grand-mère et tout, toute sa famille. Donc non, non, on est super proches tous les deux.
Bon, c'est cool. Ben, on va pouvoir le faire rentrer du coup, parce qu'il t'écoutait pendant tout ce temps. On va voir qu'il n'y a pas de faux pas. Bienvenue à toi, Marc-Antoine. C'est bon? Il a pas dit trop de bêtises?
Hein? Non, j'écoutais.
Bon, comment ça va?
Ben, ça va nickel, merci à vous.
Eh bien, très
C'est
bien, très bien. Tu vois, Quentin, il est en pleine forme. Il a dit que tu étais.
bien. Ça.
Putain, ouais, je pensais qu'il allait casser du sucre sur le dos et tout. J'ai pas réussi. Ça a pas marché mon coup, mais bon, pas
Non.
grave.
Voilà. Jamais de la vie. Jamais de la vie, c'est interdit ça.
Et par contre, attends, je me permets juste de rafficher le classement. J'aime bien mettre de l'huile sur le feu. Sur le classement, on peut en parler ou pas? Le fait d'avoir Marc-Antoine comme ça devant, Quentin, c'est... tu le vis comment là?
Je vis mal. Hein.
J'ai mal.
Ah, j'ai mal.
Il y a quelques points d'avance, ouais. C'est vrai que quand on regarde un peu. Bon. Ouais.
Oh, mais non, c'est, on a fait que
c'est
deux
ça, sans le classement. C'est ouais, tôt, dans tous les cas, c'est quand même tôt pour regarder le classement. Je pense qu'aucun de vous deux là se focalise trop là-dessus.
Je ne l'avais même pas vu.
Regardez pas ça.
Mais même, on se fait pas la course. Il n'y a pas de guerre entre nous. Le pire, c'est quand on se croise sur, pendant les manches et on se regarde dans les sauts. C'est n'importe quoi.
Ouais, du coup, il y aura pas de. Bah, d'un côté, c'est bien de savoir sur la piste, il y a des gars. Enfin, vous avez un adversaire comme vous, se dire bon, voilà, là, il y aura pas de crasse. Ça doit être quand même cool.
Non, mais il y aura pas de crasse, mais quand même, en Argentine, deux fois, il a pas pu me sortir de la piste. Je suis sorti de la piste deux fois. Moi, j'étais derrière lui. À un moment, je le double, il me sort deux fois de la piste. Je sais même pas s'il fait exprès. En fait, j'ai sauté à côté de la piste, tout ça. À la fin, je lui dis mais tu voyais pas, j'étais là. Oui, mais je voyais pas, t'étais à côté de la piste. Des fois c'est un peu bizarre avec lui. On s'est déjà fait tomber en manche et tout, hein. c'est normal.
Ouais, de toute façon, tout le monde est pote, mais après, pendant la manche, c'est pas pareil. Quoi.
Non, mais franchement, ouais. pendant l'Argentine, je lui ai dit, je savais même pas qu'il était là. Et en plus, le pire du pire, c'est que la fois où j'étais sorti de la piste, déjà, j'aurais pu y aller pire que ça et je n'ai pas y aller parce que je savais que c'était lui. Non, c'est pas fait exprès, jamais. Non. Il le sait de toute façon. Si demain il doit me sortir, je dis, tu le fais, il n'y a pas de problème.
Ouais, non. Pas... Ce qui est sur la piste, ça reste sur la piste.
Exactement. Oui.
Et du coup, tu disais à Lommel, des fois, il y a des gars, des pilotes locaux et tout, qui te doublent comme ça. Quentin, t'es sûr que c'est pas Marc-Antoine au moins qui arrive avec un maillot non. différent du pantalon et qui veut t'humilier?
Dans le sol, ça risque pas
non,
d'être moi.
À l'Omel, non. À
l'Omel, non. Ah ouais, c'est vrai.
Non. Dans le sable, non. À la limite, dans la terre, mais dans le sable, non.
C'est vrai qu'on a du mal à concevoir qu'il y ait des gars qui sont quasiment inconnus, qui arrivent à rouler plus vite que des gars du mondial sur certains oui. circuits.
J'ai vécu l'expérience aujourd'hui encore.
Ah ouais, c'est vrai.
Tu arrives aujourd'hui, il y a des gens, ils te doublent, ils ont des tenues, le haut et le bas, c'est pas la même chose. Et pourtant... Et pourtant, il roule plus fort que toi.
Ah ouais. Ça fait mal quand même.
Ouais, ça fait mal.
J'imagine.
Bon, tant qu'on vous a. À vous deux, après, on va te libérer. Quentin, on a une question pour vous deux. On l'a eu sur Instagram aussi. Alors, ça, je pense qu'il n'y a que vous qui pouvez répondre. Vivien qui demande pour vous deux, combien coûte le Red Light?
Ah, pas là-bas. Ouais,
il faudra chercher sur Google.
Les deux pilotes.
J'ai pas l'avis sur Instagram, c'est pour ça que je me suis dit bon, il y a quelqu'un qui doit bien vous connaître et qui a envie vraiment de la poser cette question. Mais elle vient pas des deux mêmes personnes, je vous rassure. Donc il y a plusieurs gens qui veulent savoir. On va enquêter, on va essayer de trouver la réponse dans les prochains lives. Peut-être on demandera à d'autres invités.
Demander à d'autres invités, non, c'est pas.
Ouais.
Non, c'est pas.
Traîne pas là-dedans. Focus.
On a pas la ref. Bon, dans tous les cas, merci Quentin. C'était bon. Écoute, un petit dernier mot pour Marc-Antoine avant de partir.
M'amour.
On a vu que tu avais l'inspiration.
Non. Je vous laisse finir le live tranquillement. On casse pas trop de sucre.
Non, ouais, maintenant il va pouvoir balancer, on va poser les questions piquantes maintenant.
Ouais, c'est comme ça.
Merci beaucoup Quentin, bonne soirée à toi bon courage pour cette saison MX2. Salut.
Allez, merci beaucoup. Ciao.
Allez, salut.
Allez, tu es à nous maintenant, Marc-Antoine. Merci de nous avoir rejoints, c'est cool.
Avec plaisir.
Et ouais, c'était sympa, on s'était dit pourquoi pas les deux jeunes du MX2, hein, comme on aime bien vous appeler. Il y a aussi Thibaut Bénistin qui est pas bien vieux, qui est un petit peu devant vous, un petit peu plus expérimenté aussi. Parle-nous un petit peu toi de tes changements de cet hiver, de comment ça s'est passé cette transition dans ce Team Usine. Je pense que tu as dû vivre un rêve de gosse, peut-être que tu le vis encore, mais est-ce que tu peux nous raconter tout ça?
Ouais, franchement, bien sûr, avant tout, c'était un rêve d'arriver, on va dire, là et en plus dans ce team. Donc, c'est un team depuis tout petit que j'apprécie énormément. Donc, c'est sûr que quand tu arrives là-bas et que tu vois ta moto avec ton numéro et que tu as ton casque tout de près, Ben, c'est sûr que ben, là, tu réalises vraiment un rêve et même tous les matins, ben, ça te pousse parce que tu te dis, ben, je fais vraiment ce que je veux faire et ce que j'ai toujours voulu faire. Donc, c'est une source de motivation. Après, ben, forcément, ça s'est très bien passé. Ça, c'est une moto qui est incroyable. Donc, j'ai pas mis beaucoup de temps à l'adopter, on va dire, mais sinon, même la vie avec le team, tout ça, au final, ben, c'est comme une grande famille et on ressent vraiment ce côté familial, donc franchement, c'est top.
Tu me parles de la moto. Est-ce qu'il y a vraiment énormément de différence entre une moto comme la tienne et une moto comme tu avais les années précédentes? Ou même, allez, pour que on se situe un petit peu, la différence entre ta moto et une moto d'origine? Est-ce que c'est vraiment le jour et la nuit?
Ah oui, ma moto est une moto d'origine. Oui, il y a franchement une grosse différence. Après, l'année dernière, déjà, j'avais une moto semi-factory avec le Team BRT. Donc, de ce point-là, même là, ça a changé énormément. Parce que le problème, c'est que c'est une moto. La moto qu'on a, ben, j'ai commencé sur la moto de la base de l'année dernière. Et donc, c'est en amélioration tout le temps. Donc, même quand on a voulu changer, ben, on a essayé de nouvelles choses. Ben, même là, il y avait déjà une autre grosse marche. Donc ça veut dire que c'est pas ça change tout le temps, mais ça s'améliore tout le temps. Il y a toujours des choses à améliorer, tout ça. Donc oui, il y a un très très gros step des deux motos et je l'ai ressenti de suite.
Et le plus flagrant, c'est quoi? C'est le moteur, suspension?
Non, moteur.
Moteur, c'est le moteur qui
Ouais,
marche
parce
très.
que suspension, il n'y a pas vraiment de suspension différente entre. Enfin, c'est des suspensions que limite tout le monde peut avoir. Enfin, c'est un Trax, une Convalve, donc c'est des choses qui peuvent s'acheter. Après, oui, c'est des ingénieurs WP, donc c'est limite tous les jours, il y a quelqu'un avec nous pour travailler sur les suspensions. Donc c'est que des petits réglages après. Mais après, même sur la moto de l'année dernière, j'avais déjà des très 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 bonnes suspensions. Et par rapport à celle de cette année, ça n'a pas changé énormément.
Mais le moteur, par contre, vous avez pris, vous prenez à chaque pièce des chevaux, de la puissance. Au niveau du départ, tu le sens ça beaucoup?
Au niveau du départ, vraiment énormément. C'est là où tu le sens le plus, même il y a des technologies que même moi, j'imaginais même pas. Hein, parce que moi, au début, enfin, c'est pas, je comprenais rien, mais je pensais pas que tout ça existait vraiment sur une motocross. Tu vois, des choses en Formule 1, en MotoGP, d'accord, mais là, sur une motocross, ben, tu penses pas qu'il peut y avoir des choses comme ça. Donc, c'est hyper intéressant aussi de faire des tests sur tout ça.
Ah, c'est les trucs qui sortiront de série dans peut-être 3, 4, 5 ans. Donc,
Oui, ils sortiront même pas, ça se trouve, on sait même pas.
ça serait quoi, tu pourrais le dire ça, les éléments toi que tu as et qui t'ont impressionné, tu peux le dire ou pas?
Dire pas trop, mais on va dire que avant déjà, on connaît tous le boîtier Guette pour faire des départs. Donc c'est quelque chose que j'avais jamais utilisé. Et au final,
C'est-à-dire avec les LED qui s'allument quand tu es au bon régime moteur, par exemple.
ouais, là c'est pas un boîtier Guette, c'est un boîtier spécial. Mais c'est quelque chose que j'avais jamais utilisé auparavant. Mais là, bah, du coup, depuis que j'ai toujours roulé avec cette moto et que je fais des départs avec cette moto, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps. Et franchement, c'est quelque chose de pas mal. Et même, tu as différentes maps, tout ça. Enfin, je ne peux pas trop en dire plus.
T'as passé combien de temps à tester les départs justement? C'est vraiment quelque chose
Tous
que
les
tu fais
jours.
un petit peu à chaque entraînement ou des fois il y a des journées de testing dédiées au départ?
Il y a eu des journées de testing dédiées au départ. Après,
Toute la
sinon,
journée tu fais des départs?
ouais, vraiment pendant 1 ou 2 heures, c'est tout le temps des départs. Et bon, après, c'est des départs, mais le truc, c'est tu fais pas 2 heures départ d'affilée parce que ben, la moto, tu fais un départ, tu fais le premier départ que tu vas faire avec ta moto et ça va être différent du cinquième. Donc, c'est des choses que tu prends, c'est où vraiment tu prends ton temps de tester les choses pour savoir si c'est mieux ou pas. Mais après, sinon, des départs, c'est tous les jours à l'entraînement.
D'accord. Et du coup, l'entraînement, ça se passe comment pour toi? Tu t'entraînes avec quel pilote? Tu fais des entraînements, comme tu nous l'as dit, hein, c'est une petite famille, mais comment ça se passe pour entraînement physique, entraînement sportif, auto?
On va dire que moi, donc, je suis basé en Italie, proche du team. Donc, je suis basé, on va dire qu'un peu toute l'équipe est là-bas. Donc, tout le monde est réuni là-bas. Et du coup, les entraînements, c'est souvent avec Klagenfelder, parce que Prado s'entraîne avec Smets. Donc, ce qui est bien déjà, c'est d'avoir toujours un coéquipier d'entraînement, surtout quelqu'un qui est au-dessus de toi. Donc,
Ouais,
ça te
quelqu'un qui
tient
est devant.
vraiment.
Hein.
Donc ça, ben, ça te montre, parce que lui vraiment à l'entraînement, il a vraiment la vitesse pour gagner. À l'entraînement, c'est assez impressionnant même des fois. Donc c'est bien d'avoir ce repère-là déjà à l'entraînement, et du coup ben, tu t'améliores tout le temps, ben, parce que tu vois au final tu te rapproches, ça va mieux là. Et même au départ, c'est un très bon starter. Donc, quand même, quand on fait des départs ensemble, c'est vraiment bien. Après, à l'entraînement, c'est, on va dire, le team manager gère un peu tout pour nous deux. Donc, l'entraînement moto et aussi l'entraînement sport avec quelqu'un à côté, mais qui est aussi proche du team. Donc, c'est un peu tout regroupé, et c'est bien aussi parce que ça permet pas de s'en mêler un peu entre les uns et les autres pour l'entraînement, ça, le sport. Donc, c'est pas mal.
Tu te retrouves comment là, tu, par rapport à l'année dernière? Tu t'avais déjà quitté ta famille? Comment ça se passait? Je me souviens plus dans quelles conditions tu étais avant.
Oui, l'année dernière, donc oui, j'avais déjà quitté ma famille. J'étais ou au Sable d'Olonne, donc au Team Verte, ou plus souvent j'étais chez Pella en Normandie. Donc
D'accord.
là maintenant, j'habite vers Rome, donc à 10 minutes du team, au bord de la mer. Donc ça change de la Normandie, le climat n'est pas le même, mais c'est pas mal aussi pour s'entraîner. On a de belles pistes, et même là je suis en Belgique, donc le team ou un workshop, on va dire, aussi basé ici à Lommel. Et c'est aussi bien parce que ben, au final, on a la même chose ici en Italie. Donc, ben, si un jour on voit qu'une semaine il fait beau en Belgique, ben, on a juste à prendre l'avion et à venir s'entraîner ici.
La Genfelder, tu nous as dit que tu roulais avec lui à l'entraînement. C'est quoi comme type de pilote? C'est un besogneux qui n'arrête pas de rouler, rouler, rouler et qui roule vite, même à l'entraînement, ou c'est quelqu'un qui s'économise et qui arrive à rouler quand il faut?
Non, moi je pense que c'est un. Comme vous dites là, je sais pas quelle expression vous avez sorti, mais c'est
Le
quelqu'un
besogneux, c'est-à-dire
qui.
celui qui n'arrête pas de rouler et qui roule tant qu'il peut à fond.
Oui, vraiment, et c'est quelqu'un. On va dire c'est un acharné du travail, c'est quelqu'un qui travaille énormément, donc même à l'entraînement, il va donner tout ce qu'il peut quand il peut. Donc oui, donc c'est assez bien parce que du coup, même moi, ça me force à forcer pour m'égaliser un peu à lui. Et franchement, c'est bien d'avoir un coéquipier comme ça.
Et les chronos, ça donne quoi à l'entraînement de manière générale? Tu t'arrives à te rapprocher de lui quand même ou pas?
Oui, ça va. On va dire qu'il n'y a pas une grosse marge parce que, on va dire, sur un tour, j'arrive à être assez rapide. Donc, ça va. Mais après, il a un très gros rythme sur 30 minutes. Donc, c'est là où j'ai encore du mal. Mais lui, sur 30 minutes, il est vraiment assez régulier. Et donc, même déjà par rapport au début de l'hiver, quand j'ai commencé à rouler avec lui, ben, c'est déjà beaucoup mieux.
Tu fais un bon début de saison, toi, d'après toi, ou enfin, nous, moi personnellement, je trouve que c'est un beau début de saison, mais toi, t'en penses quoi de ce début de saison? On a vu que t'étais, je me rappelle plus, 7-8 au général, c'est
7,
ça?
ouais.
7, ouais.
Ouais, franchement, c'est un bon début de saison. J'ai fait une bonne course en Argentine. Donc même moi je m'attendais pas vraiment, on va dire, à ça, parce qu'au final, oui, d'accord, je savais que j'avais, on va dire, une bonne vitesse de pointe comme je l'avais montré l'année dernière en Europe, où je faisais souvent des très bons temps chrono, tout ça. Mais là d'arriver, j'avais même fait une bonne course à Villars. Donc là d'arriver et de faire la première manche, partir devant et de faire 20 minutes devant comme ça, ben, c'est sûr que au final, ben, on va dire que je ne m'attendais pas vraiment à être de partir et d'imposer un rythme comme ça devant. Après, oui, ben, quand tu pars devant comme ça, tu es jeune, donc tu te dis je vais tout faire pour gagner, tout ça, parce que forcément, quand tu es devant seul en tête d'une manche du mondial, ben, c'est bizarre, hein. Donc, faut pas laisser prendre le dessus aussi. Donc, j'essaie de rester concentré. Après, il fallait que je travaille encore physiquement. Donc, j'ai fait quelques erreurs. Et après, pour moi, oui, c'est un très bon début de saison. Il ne faut pas que je me prenne la tête. Il reste encore beaucoup de courses. Donc, le but, c'était de monter crescendo. Et je ne voulais pas faire la première course exploser vraiment, et après régresser tout le temps. Donc, je vais plutôt essayer de maintenir tout le temps d'assez bonnes positions, d'assez bons points. Et après, ben, je sais que ça viendra avec le temps.
Tu nous as parlé du sable tout à l'heure, tu as dit que voilà, c'était pas ta tasse de thé pour l'instant. C'est quelque chose que tu crains, les grands prix de sable?
Non, pas quelque chose de craint, on va dire, parce que ben, au final, on est là pour travailler. Donc, Non, ben, je ne suis pas un mauvais pilote de sable non plus. C'est quelque chose que. C'est pas mon point fort, c'est sûr, mais c'est quelque chose que j'apprécie. J'aime bien rouler à l'entraînement dans le sable. Donc, après, il y a des pilotes qui sont très rapides dans le sable aujourd'hui en mondial, comme De Wolf, des choses comme ça. Donc, après, ben, comme je dis, il y a des grands prix que c'est sûr qu'ils vont être plus compliqués. Et c'est là où. Pas, il va falloir survivre, mais il va falloir être présent, marquer des points. Et c'est là où ça va faire. Pas, ça va faire le championnat, mais ça va jouer un peu, c'est sûr.
J'ai une autre question, moi, par rapport au team. Quand tu as intégré le team, comment ça s'est passé? Parce qu'on sait que, y a la barrière de la langue. Ils parlent soit anglais, soit italien. Toi, tu en es où à ce niveau-là pour t'intégrer, pour arriver à parler avec le team manager, les coéquipiers, l'entourage? Comment ça s'est passé pour toi?
Ben, déjà, on va dire que j'avais quelques bases en italien. Donc, ça m'a sauvé un peu. Après, on va dire que j'ai appris assez vite parce que maintenant je parle couramment. Et même quand je suis arrivé là-bas, le patron, donc Claudio, ben, lui, il parle qu'italien. Il veut pas parler anglais. Donc, quand tu parles avec lui, tu es obligé de parler italien.
En plus, avec ton nom de
Donc,
famille, il a dû se dire, lui, c'est bon, il sait parler italien.
oui, donc après, oui, au début, quand je suis arrivé, qu'il y a des choses que je comprenais pas, tout ça, avec mon mécano, David et tout ça, on parlait un peu en anglais. Mais on va dire que maintenant, ben, c'est quasiment que de l'italien, on parle plus qu'en italien. Même avec mes coéquipiers, hein, avec Prado et Langenfelder, ben, en fait, on parle même plus anglais parce que ben, vu que tout le team parle italien, tout ça, ben, entre nous, on parle tout le temps italien.
D'accord. Ouais,
Ah,
c'est
justement,
rare.
Julien qui parle du team et qui nous demande le rapprochement, comment ça s'est fait. Est-ce que c'est eux qui t'ont contacté? J'ai envie de pousser la question un petit peu plus loin. Est-ce qu'il y a eu des tests à passer? Est-ce que tu as dû aller en Autriche? Parce qu'on sait que c'est aussi le groupe KTM. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Non, pas vraiment des tests. Non, c'est pas du tout ça. Hein. C'est après, ben, ils sont toute l'année sur les courses de l'Europe. Donc, ils voient de quoi tu es capable, ils voient ton niveau. Et sachant que moi, j'étais déjà en contrat avec KTM l'année dernière. Après, on va dire, c'est pas des options dans les contrats, mais c'est pas quelque chose que je gère moi non plus. Donc, moi, après ma saison, je voulais passer en MX2. Et si j'arrivais à avoir cette opportunité de rentrer dans un team comme ça, ben, fallait que je la saisisse. Donc, j'ai eu l'opportunité et je pouvais pas rêver mieux au final.
Et quand tu rentres dans un team comme ça, c'est quoi le deal? Si on ne parle pas de contrat et de montant, si on parle juste d'évolution, est-ce qu'ils te disent, bon, on va faire une année pour voir t'es entre guillemets le deuxième pilote derrière la Gulfender et après tu pourras passer premier pilote? C'est quoi en fait comment ça se négocie tout ça?
C'est pas quelque chose qui se négocie, on va dire. Dès que je suis arrivé, moi, vraiment, ils m'ont dit vraiment, on te mettra pas de pression, tout ça. On sait que c'est ta première année. On a vu de quoi tu es capable. Tu montres encore une bonne vitesse à l'entraînement. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que tu montes crescendo, que tu prennes pas la tête. Vraiment, tu sais ce que tu sais faire et forcément, ça marchera. Et même encore aujourd'hui, après des courses, tout ça, ils voient, ben, même moi, genre, je suis pas content de mes résultats, tout ça. Enfin. Après des manches, on va dire, où j'ai peiné un peu physiquement, je suis pas forcément content. Et eux, ils sont là, ils sont contents, ils sourisent tout le temps, ils disent c'est bien, c'est bien, c'est bien, continue. Parce qu'au final, ben, au final, oui, aujourd'hui, je sais que Langenfelder est devant moi et que lui, il jouera le titre. Mais après, moi, c'est le truc, c'est que cette année, je dois prendre un maximum d'expérience. Et parce qu'au final, ben, j'ai pas. Comme d'autres pilotes comme Thibaut, tout ça, ça fait quelques années qu'ils sont en mondial. Et moi, ça fait au final que 3-4 ans que je suis sur les courses de l'Europe. Et là, j'arrive de suite en mondial. Donc, il faut que je prenne un maximum d'expérience, tout ça. Et tu vois, c'est comme en Argentine, quand je suis parti devant tout seul 20 minutes et qu'après j'ai craqué, ben, c'est une expérience. Et je sais que maintenant, ben, au final, il faut que tu gères ta course. Donc, moi, même eux, vraiment, on y va, c'est pour rouler. En fait, les courses, c'est comme de l'entraînement. Au final, maintenant, les courses, vraiment, on prend ça plus comme un entraînement et après, ben, ça viendra petit à petit.
Et tout à l'heure, Quentin nous disait que lui, ça l'avait étonné, le rythme, l'intensité en début de manche. Est-ce que toi, ça t'a étonné aussi ou pas?
Oui, moi, ça m'a enfin, oui, étonné, oui, parce que j'ai plus ressenti en Espagne. Parce que, on va dire que quand tu fais un tour chrono, tu es à fond. Eh ben, eux, ben, les 5 premières minutes, c'est des tours chrono tous les tours. Donc, quand tu es comme ça, et en plus que tu pars devant, ben, tu as tendance à te mettre en apnée. Parce que ben, tu as ceux de devant, devant toi, donc tu as envie de les suivre, donc tu donnes tout et même au final tu t'accroches au guidon et donc c'est pour ça que bah, après ça, la fatigue arrive plus rapidement. Mais après oui, c'est sûr que c'est un très 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 gros rythme et c'est pas quelque chose qui m'a impressionné plus que ça parce qu'au final ben j'ai réussi à m'accrocher un peu avec eux, mais on va dire c'est là où je m'attendais. Je m'y attendais à ça. C'est pas quelque chose qui m'a impressionné énormément. Mais après, c'est eux, c'est ils font, ils mettent ce rythme-là en début de manche. Mais après, ils vont pas avoir de baisse. C'est que on va pas dire qu'ils vont augmenter le rythme, même s'ils peuvent. En fin de manche, s'ils doivent se bagarrer, ils vont le faire. Mais ça va être tout le temps. Ils vont être tout le temps présents à chaque tour.
Et le fait peut-être de t'entraîner aussi avec Lagenfelder, ça te donne ce rythme qui, lui, il a aussi un entraînement, et
Exactement.
t'es moins étonné le jour J, quoi.
Exactement.
Et ça serait quoi, toi, l'objectif pour toi? Ça serait plutôt de faire un coup d'éclat cette saison, un ou plusieurs coups d'éclat, ou plutôt jouer un classement, un bon classement au général?
Non, non, c'est pas. Je veux pas vraiment faire de coups d'éclat sur une course. On va dire que je veux partir et on va dire que je vais prendre chaque week-end comme une expérience. Et au final, ben, je sais que petit à petit, je vais me rapprocher. Et plus je roulerai, ben, plus j'aurai confiance, on va dire, en moi, tout ça. Donc, j'irai rouler devant. Parce qu'au final, ben, après, faire des coups d'éclat, après, ça va être d'être le plus possible régulier, d'être tous les week-ends présent. Donc, des coups d'éclat. Oh, oui, ça serait bien que. C'est sûr que j'ai envie de gagner des grands prix, tout ça, mais c'est pas vraiment sur une fois qu'il faut le faire. J'ai envie de le
Bah,
faire
si on
sur
te
plusieurs fois
laissait
et de
le
le
choix
faire
là comme
bien.
ça entre gagner un grand prix ou faire un top 5 au championnat au général, ça serait quoi?
Et
Enfin, la
qu'est-ce que.
Marseillaise quand même.
La question pas
Ouais,
une.
gagner un grand prix.
Et du coup, toi, tu as signé un contrat pour combien de temps avec GazGaz?
Sur 2 ans, après,
D'accord.
tu as plusieurs possibilités pour plus tard, tout ça.
Ok, donc là dans l'idée, en gros, tu as 2 ans assurés chez eux. Donc déjà c'est pas mal, c'est une bonne chose pour évoluer. Ça te laisse une marge
Oui, bien
où tu
sûr.
peux évoluer sereinement, quoi.
Le supercross pour toi, c'est quelque chose qui te brancherait, c'est quelque chose qui est formellement interdit par le team. Est-ce que ça serait sous forme de cadeau, comme il nous a dit Quentin tout à l'heure?
Non, non, moi, le team, enfin, ils sont pas trop chauds sur ça. Même si là, Prado était parti. Et au final, ils ont vu que ça lui a fait énormément de bien. Parce que même lui sur la moto, ben, maintenant, ça se ressent que ça lui a fait du bien. Mais on va dire, j'y pense pas vraiment. Même aux États-Unis, tout ça, c'est pas quelque chose auquel je pense. Donc maintenant, juste évoluer en Europe. Et après, ben, vraiment plus tard, pourquoi pas, parce que faut voir comment évolue le championnat du monde aussi. C'est ça qui est important. Mais pour l'instant, les Six, c'est quelque chose qui me plaît. J'en ai fait un tout petit peu. C'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose qui me plaît. Donc après, si j'ai l'opportunité, comme a dit Quentin, de faire un Supercross de Paris, bien sûr que je le ferai. Mais je ne peux pas arriver là-bas sans avoir fait d'entraînement, tout ça. Donc après une longue saison, comme on va faire. Des choses à voir où il faut pas que tu te blesses, tout ça.
Tu t'entraînes, enfin, tu t'es déjà toi entraîné en SX ou peu?
Peu.
Peu, ouais,
J'en ai
c'est
fait.
pas ta
Ouais,
discipline.
mais l'année dernière avec Pella, j'en avais fait une fois parce que bah, lui, il voulait un peu que j'en fasse parce qu'il trouvait que c'était bien pour ça apportait beaucoup sur le cross. Donc j'en avais fait une fois. Mais après, oui, c'est quelque chose qui m'avait plu. Hein.
D'accord.
En parlant de Pella l'année dernière, on a une question sur YouTube de Philippe qui nous demande si l'entraînement est plus dur, plus structuré que l'année dernière.
Plus géré, plus structuré. En fait, je veux dire, c'est complètement différent parce que quand tu arrives en Europe, tu travailles pour. En fait, tu as vraiment une place à gagner pour justement rejoindre un team comme ça. Donc, même moi, l'année dernière, on va dire, j'étais parti un peu de zéro avec Pella, donc j'avais travaillé énormément, énormément. Donc, oui, l'année dernière, j'avais travaillé très, très, très dur. Alors que là, je suis arrivé, et on va dire que de octobre, ben, je suis arrivé en fin octobre au team. Et de là, on a commencé à travailler, on est venu ici en Belgique, tout ça. Donc, on va dire que l'entraînement n'a pas été plus dur parce que l'année dernière, j'avais traîné quelques blessures, tout ça. Même si cet hiver n'a pas été facile au niveau de tout ça, ben, au final, oui, c'est du travail dur parce que c'est beaucoup de motos, c'est beaucoup plus de motos et physiquement, c'est un peu moins dur, mais on fait tellement de charges moto qu'au final, ça compense durant l'hiver.
Tu continues à prendre du plaisir quand même avec cette charge de moto et ces heures de roulage?
Mais c'est quelque chose de quoi dont on avait parlé parce qu'on m'avait dit maintenant tu vas faire que ça. Et c'est normal qu'au bout d'un moment, ben, je te dise que ça va être compliqué, tout ça. Tu vas avoir... Il y a des jours, c'est sûr, que tu ne vas pas prendre du plaisir. Hein. Quand tu arrives ici en Belgique, qui fait moins 4 et que tu dois rouler sous la pluie, ce n'est pas une partie de plaisir. Mais après, c'est des choses que dont tu dois t'habituer et tu dois toujours trouver du plaisir au-dessus, comme ben, si la piste est défoncée. Comme moi et Quentin, on a la chance d'avoir un pilotage assez propre, tout ça, où on arrive à s'amuser avec la moto. Et c'est là où on doit chercher à s'amuser le plus possible avec la moto pour compenser, on va dire. Donc, non, non, c'est... Si on fait ça, c'est parce qu'on aime aussi.
Tu te vois tu te vois faire de la moto combien de temps? Une carrière, à ton avis? Alors toi, tu es au début de ta carrière, mais il y en a qui disent, c'est Jerry McGrath qui disait pendant longtemps, une carrière au niveau professionnel, ça dure 10 ans. Que tu commences à 26 ans, tu vas finir à 36 ans. Si tu démarres à 16 ans, tu finiras à 26 ans. Ça a été vérifié quelquefois avec des gars comme Villopoto, Dungy, qui ont mis un terme à leur carrière parce qu'ils étaient complètement en burn-out à l'âge de 26 ans pour eux. Mais on a vu des gars qui ont continué longtemps, comme Marvin Musquin, voilà, ou d'autres que j'ai pas en tête, mais t'en penses quoi,
Reed, je
toi?
pense qu'il a Reed, il a fait une carrière longue.
Oui. Oui, après, on va dire que c'est des gens qui ont eu beaucoup de cheat, tout ça. Donc après, si tu arrives à avoir une assez bonne carrière, on va dire comme l'a fait un peu Erlings, moi, à sa place, j'arrêterai. Parce qu'au final, ben, même s'il est jeune, ben, il commence à. En fait, il a eu trop de blessures, tout ça. Donc ça commence à se ressentir trop sur son pilotage et tout ça. Donc après, ben, comme des gens MXGP qui n'ont jamais vraiment été champions, tout ça, et qui roulent encore, alors qu'ils ont plus de 34, 35 ans, moi, je pense pas que ça serait quelque chose que je ferais parce que, ben, au final, c'est tellement d'exigence, tout ça, qu'au final, ben, tu peux pas faire 20 ans de carrière comme ça. C'est pas possible. Parce que, ben, même au bout d'un moment, je pense que quand tu roules à 34 ou 35 ans comme ça, tu dois pas prendre du plaisir sur la moto comme tu prenais que quand tu en avais 22. Parce que ben, le lendemain de course, ça doit être plus compliqué, j'imagine. Et même l'entraînement, ben, tout ça. Et si c'est en plus pour pas rouler devant, je trouve pas que ça soit efficace. Donc, moi, enfin, on va dire, tant que je pourrais gagner, je roulerais. Mais après, si je vois que ça deviendra plus compliqué, forcément, ben avec l'âge ou tout ça, et après, ben, je connais pas mon futur, mais bon, ça sert à rien de traîner, traîner, traîner trop longtemps. C'est en plus pour accumuler des blessures, tout ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse.
Et toi qui viens d'arriver en MX2 avec ton œil neuf de pilote d'Europe qui monte, tu penses quoi d'un point de vue global on va dire, de tout le championnat? Est-ce que tu penses que c'est un championnat cool qui donne envie d'y aller? Est-ce que tu penses qu'au contraire, il y a des grilles vides et que voilà, il faudrait quelques petites choses pour que ça s'améliore? Voilà, j'essaie de voir un petit peu avec ton regard d'un point de vue intérieur. Toi, tu connais, je pense, tous les ragots de chaque pilote qui galère un petit peu dans les teams, des autres qui sont ultra bien payés parce qu'ils sont devant un MXGP. Tu connais un petit peu tout ça. Et qu'est-ce que tu penses de tout ça d'une manière générale?
C'est sûr que ben, du coup maintenant les Européens ont tendance à beaucoup comparer avec les États-Unis, donc c'est sûr que c'est, on va dire, c'est le jour et la nuit, parce qu'au final, ben, c'est bien qu'il y ait des marques qui arrivent en Europe comme Triumph et Ducati, parce que ben, ça va ramener un peu plus de pilotes, on va dire, usines, ça remplit des grilles, tout ça. Mais après, c'est sûr que au final, ben, il y a quoi, je sais. Il doit y avoir 10-12 pilotes usine par
Ah, par catégorie.
maximum. Oui, voilà.
Ouais, je pense.
Donc, oui, après, c'est sûr qu'il y a la différence, comme on dit, hein. Je pense qu'il y a que y a les 7 premiers qui gagnent, enfin, 5 premiers qui gagnent bien leur vie. Donc, après, même que ce soit en MXGP, tout ça, et tu prends le cinquième du MXGP et le cinquième du Supercross aux États-Unis, c'est pas la même chose. Donc après, ben, il y en a beaucoup qui se comparent à ça. Après, c'est sûr que encore, je trouve que c'est en train de s'améliorer. Il y a eu beaucoup de grilles vides il y a 2 ans, 3 ans, tout ça. Et je pense qu'ils s'en rendent compte un peu et ils font les choses pour... ils veulent améliorer les choses.
Après, tu trouves juste au niveau du budget, parce qu'à chaque fois, ce qui revient quand même, c'est le manque de moyens donnés aux pilotes, on va dire pas aux pilotes qui sont devant, mais c'est plutôt la disparité entre ce qui est donné à ceux de devant, les 5 premiers du MXGP, et les autres. Quand on est 12e, on n'a pas grand-chose, quoi. Et toi, tu penses que ça s'améliore, ça, cette homogénéité des contrats ou pas?
Non, ça non. Ça, c'est pas quelque chose... Enfin, parce qu'au final, même des pilotes MXGP, on va dire des pilotes usine, il n'y en a pas beaucoup. Si tu es dans un team usine et que tu roules assez bien, oui, c'est sûr que tu gagnes bien ta vie. Tu gagnes même très bien ta vie. Mais après, tu prends, il y a beaucoup de pilotes privés au final en MXGP qui, oui, pour eux, c'est très dur parce que Infront ne verse pas de primes. Au final, à eux, ça les conviendrait plus d'aller faire une course de championnat de France pour prendre les primes du promoteur que de faire une course dans MXGP où ben, ils perdent des sous au final. S'ils ne sont pas payés par leur team, s'ils n'ont pas de prime de résultat par leur team, ben, ils perdent des sous. Et au final, oui, c'est ça, il n'y a pas d'égalité, mais c'est, on va dire que c'est un sujet assez compliqué sur ça.
Ouais, bon, aujourd'hui, ça va, ça se passe bien à ton âge, est-ce que tu es satisfait? Si, quand tu étais gamin, on t'avait dit, ben là, tu gagneras ta vie de telle manière, est-ce que tu aurais signé de suite?
Ben en fait, on va dire que j'ai signé, c'est pas quelque chose que je regardais vraiment. Même maintenant, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Si je dois gagner une course, je le fais pas pour la prime qui a sur le podium. Mais en fait, j'aurais signé juste pour vivre le rêve que je suis en train de vivre. Parce qu'au final, ben, je fais le tour du monde, je découvre des pistes et c'est toujours un plaisir de rouler sur des pistes, de faire des courses comme ça, parce qu'au final, j'aime la compétition et c'est ce que j'aime, donc c'est ce que j'arrive à faire. Mais après...
Bon, tu ne le fais pas d'une manière où tu es endetté, que tu regardes les factures à la fin du mois et que tu ne sais pas où est-ce que tu vas dormir, quoi.
Non, quand même pas. Mais non, ça c'est sûr, c'est pas quelque chose qui m'importe trop. Alors, moi, je roule juste et...
Ouais. T'as pas besoin d'acheter des voitures, des Ferrari ou des trucs comme ça encore, c'est bon?
Non, non.
Pas encore. On avait eu quelques questions sur Instagram, mais des questions bon, qu'on pouvait pas poser, donc...
Ouais, bon. On a été à la limite tout à l'heure.
Donc on va pas les poser, celle-là.
Non, on a eu quelques questions sur... Bon, on les a posées, hein, sur... Voilà, ils voulaient savoir... Beaucoup de monde voulait savoir la différence entre un team... entre voilà, le team d'aujourd'hui et les teams que tu avais eu avant. Donc, t'as pas mal répondu, t'as pas mal parlé de la moto. Y a eu une question tout à l'heure sur Facebook de Guillaume qui nous demande si tu assistes des fois au démontage moteur ou peut-être du moins à la mécanique un petit peu plus générale. Est-ce que vous, les pilotes, vous y jetez un œil? Est-ce que vous mettez les mains des fois dans la mécanique? Est-ce que ça t'intéresse ou est-ce que c'est interdit? Voilà le fond de sa question.
Non, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Après, démontage moteur, non, c'est... On va dire que maintenant, c'est un team usine. Donc maintenant, si le moteur doit avoir quelque chose, s'il doit être ouvert, tout ça, c'est pas vraiment nous qui le faisons. C'est fait là-bas en Autriche. C'est pas nous qui assemblons les moteurs, tout ça. On reçoit tout d'Autriche directement. Après, moi, il y a des choses qui m'intéressent. Comme quand je suis arrivé, tout ça, ils m'ont montré un peu comment ça marchait, ça, la moto, tout ça. Et au final, maintenant, je le sais. Et même encore quand mes mécanos travaillent, ben je vais avec eux, je regarde ce qu'ils font, tout ça, parce que au final, ça m'intéresse depuis petit avec mon père quand je le regardais faire dans le garage. Ben encore aujourd'hui, ça m'arrive de changer mes pneus des fois. Hein. Alors des fois, je vais avec eux et je change un pneu, tout ça, c'est pas quelque chose qui me dérange.
D'accord. Tu montes des mousses ou c'est tu roules la mousse exclusivement?
Ouais, mousse.
Ok.
Allez, on a une petite question. Ça risque d'être la dernière pour aller te laisser te reposer parce que Quentin nous a dit que c'était dur les entraînements en ce moment. On a Bobby qui nous demande comment tu imagines ta carrière dans les années à venir. Allez, on va dire d'un point de vue optimal, ça serait quoi pour toi?
Vraiment, je sais pas du tout.
Tu ne te donnes pas, par exemple, est-ce que tu te donnes jusqu'à tes 23 ans à MX2, tu vas aller jusqu'au bout? Est-ce que tu aimerais monter avant en MXGP? Est-ce qu'il y a, tu vois, un petit rêve quelque part dans ta tête?
Non, pour moi, on va dire quelqu'un qui a une carrière assez parfaite, on va dire que c'est Vial. Parce qu'au final, il est encore jeune, il a deux titres de champion du monde. et ou quelqu'un même comme Prado. Hein. Comme Prado, on va dire que c'est un peu la carrière parfaite. Hein. Mais quelqu'un comme Vial, deux fois champion du monde, au final, ben, au lieu de faire le choix de passer en 450, où il aurait pu, enfin pas peiner, mais avoir une ou deux années creuses en résultat, mais il a préféré, il a fait le choix d'aller aux US et au final, cette année, il est très bon. Même si les dernières, on aurait dit, il y en a qui disaient, ah, mais il roule pas comme il roulait en Europe, tout ça. Je pense que cette année, il montre de très, très, très belles choses. Donc, je pense qu'il a une très belle carrière. Et si je pourrais suivre une carrière de quelqu'un, ou la sienne ou celle de Prado, mais tout dépend de l'âge ou du moment.
Bon, c'est
Bon,
des
ça
belles
va, c'est des bonnes
carrières.
carrières.
Ouais,
Ça me va. Même moi, si je pouvais, même à 36 ans, tu vois, j'aimerais bien avoir une carrière comme ça. Bon, en tout cas, merci. C'est cool. C'était
Merci
cool
à
de
vous.
parler de tout ça avec toi. Début de saison, c'est cool. Tu disais que tu n'avais pas encore regardé le classement général et que tu t'en foutais un petit peu. Mais en tout cas, de ce qu'on a vu, de ce que tu nous as montré et de ce qu'on a pu voir à la télé, c'est un bon début de saison. Ça fait plaisir à voir et on te donne toute la force pour la suite.
Merci beaucoup.
Merci, on te souhaite une bonne soirée
Ben vous aussi.
et
Salut à tous. À la semaine prochaine. Bonne nouveau live.
Nous prépare un autre invité pour la semaine prochaine, ne vous
Chaud
inquiétez pas.
222, peut-être avec un goûter chez Blaise. On va voir, je vous dis, on va réfléchir.
Avec l'invité.
Allez, ça marche. Salut à tous.
Merci beaucoup.
Bonne soirée. Salut. Bonne soirée.